Chapitre 5. Maître Dandelin, expert. Les trois voyageurs remontèrent en voiture. Le silence était lourd. Seul le ronflement joyeux du moteur mettait un peu d'allégresse sur cette route morne aux ombres tristes. Le paysage leur paraissait maintenant glacial, rébarbatif, ténébreux, mauvais. On eût dit que le soleil s'était caché derrière une armada d'énormes nuages noirs et de brumes menaçantes. En réalité, rien n'avait changé dans cette charmante matinée de printemps. La route était jalonnée d'arbres bien verts qui ronronnaient de plaisir sous la brise fraîche de midi. Les fleurs se prélassaient sous la claire lumière du paisible astre solaire. Raoul réfléchissait. Il avait repris le contrôle total de lui-même et tâchait d'envisager les diverses possibilités. Dans son esprit, il séparait maintenant le passé du futur. Pour le passé, il y avait deux possibilités. La Joconde était fausse, et quelqu'un possédait donc la vraie. Donc ce quelqu'un, c'était lui. C'est ce que tous les journaux imprimeraient le lendemain. Autre possibilité. Le notaire avait menti, ou se trompait, et le tableau était authentique. Il n'y avait aucune chance au monde, il le savait bien, pour que le tableau ait été remplacé la nuit du 1er avril, ou même le lendemain. Impossible. Donc le tableau était vrai. Dans ce cas, l'expert se trompait. Un expert de cette classe ne se trompe pas, donc le tableau est faux. Non, il ne se trompait pas, mais le tableau est le vrai. Alors il mentait. S'il mentait, Raoul ferait sur lui une enquête en règle à la première occasion. D'ailleurs, pourquoi mentirait-il? Pourquoi aller raconter toute une histoire aussi romanesque et plonger toute l'humanité dans la consternation? Qu'avait-il à gagner? L'alternative ne semblait guère plus convaincante. Aucun détail ne permettait d'arriver à la conclusion, logique et rigoureuse, que Maître Ruspan avait dit vrai et que le tableau était faux, ou que le tableau était vrai et l'expert un menteur. Il fallait effectivement attendre patiemment la contre-expertise de Maître Dandelin. Mais Raoul sentait bien que la réalité était là, accablante et implacable. Le silence et la prostration de M. Gabillon et d'Isabelle lui montraient la vérité. Le tableau était faux. Donc, quelqu'un avait le vrai, et Raoul saurait bien le lui reprendre. Il passa à l'analyse du futur. Comment éviter le ridicule, maintenant? Il voyait déjà les titres. Lupin roulé, le voleur volé, le cambrioleur cambriolé. Il serait la risée de ce public qu'il aimait tant à faire rire, avec ses cabrioles et ses coups de théâtre à la Marivaux. Sans doute arriverait-il à retourner la situation, et par un coup d'astuce à sa façon, à subtiliser le portrait et à faire rire la galerie. Il n'en doutait pas. Il avait confiance en sa puissance et en sa clairvoyance. Elle ne le tromperait pas. L'ennui, c'est que tous ses plans étaient maintenant par terre. L'idée de base avait été de s'arrêter au retour, dans une auberge, pour déjeuner, et de prétexter avoir oublié un objet quelconque dans la voiture. Il aurait remplacé le portrait par une plaque de bois de dimension similaire et caché l'original sous le tapis du coffre à bagages de l'auto. Il aimait les solutions simples et n'avait pas honte de les utiliser le moment venu. Mais maintenant, cela n'avait plus aucun sens, et il fallait agir différemment, et en employant les grands moyens. Une pensée le frappa. Il y aurait eu peu de chance pour que M. Gabillon laisse un pareil paquet tout seul dans une auto en pleine route nationale. Ce fait lui avait échappé dans la préparation de son système un peu simpliste. Conclusion de ses réflexions, la situation devenait quand même un peu plus intéressante, et la bataille était devant lui et non derrière lui. « Eh bien, tant mieux, se dit-il, il y aura de l'action. » Tous les détails de ses réflexions furent dévoilés quelques semaines plus tard par Raoul lui-même, lorsqu'il révéla publiquement son véritable rôle dans l'affaire du vol de la Joconde. Comme on approchait de Paris, son nouveau plan de bataille avait déjà pris forme. Il en connaissait les lignes générales, l'enchaînement des événements prochains, les probabilités de réussite et les dangers. Le dénouement final auquel mèneraient ses efforts, la victoire, ne faisait pas de doute. Pas un mot ne fut prononcé jusqu'à l'arrêt de l'auto. « Je vous ramasse ici à 7h30 ?» demanda Raoul. « Oui. Vous serez là aussi, Isabelle, je vous en prie. » Elle hocha la tête mais ne dit rien. L'auto s'éloigna lentement. Le conservateur du Louvre et la guide restaient là, en silence, sur le trottoir. « Il a menti, vous croyez ? demanda-t-il simplement. Elle haussa les épaules et encore une fois ne répondit pas. « Bah, nous serons tous ce soir, n'en parlons plus !» dit M. Gabillon avant de quitter la jeune femme pour entrer au musée. Isabelle retourna chez elle. Elle s'aperçut qu'elle n'avait pas prononcé une parole de toute la matinée. Elle se sentait accablée, torturée, coupable même. À quel moment avait-on volé le tableau? Qui? D'Averny, dont elle connaissait les qualités un peu spéciales? Non, il avait l'air encore plus ému que son patron et elle. D'où venait donc cette émotion? Quelle colère, quel emportement quand l'expert avait laissé tomber le couperet sur la nuque de Mona Lisa! Quelle révolte! Vous mentez! Ces mots résonnaient dans son esprit comme des coups de marteau. Qu'est-ce que cela pouvait bien lui faire, à D'Averny, si la Joconde était vraie ou fausse? Avait-il un intérêt quelconque dans cette histoire? Elle se rappela l'aventure de la duchesse de Krantz et les ragots sur ce nom de Raoul D'Averny. Elle ressentait encore une fois cette gêne qu'elle éprouvait à côté de Raoul. S'analysant un moment, elle constata qu'elle avait pour cet homme, non de l'attirance et de l'admiration, mais bien de l'aversion et de la crainte. Ce sentiment bizarre contrastait avec tout ce qu'elle savait de la personnalité si charmeuse de D'Averny. Elle le savait très apprécié des femmes, séducteur rarement déçu, et somme toute bel homme. Mais non, elle ne se trompait pas. Elle n'éprouvait aucun sentiment de tendresse ou d'affection pour ce personnage, qui exerçait pourtant sur elle un ascendant presque magnétique. « Affaire à suivre, » se dit-elle. Elle s'allongea sur son canapé et s'endormit. Le rituel du matin se répéta presque intégralement dans la soirée. L'auto attendait. Isabelle n'y monta qu'après que M. Gabillon s'y fût installé, gardant maintenant le long paquet sur ses genoux. Moins de 20 minutes après, il sonnait à la porte de Maître Dandelin, place d'Italie. Celui-ci ouvrit la porte lui-même et dit simplement à M. Gabillon que son domestique ne rentrerait de vacances que le samedi. Lui-même avait renoncé à l'analyse complète des reliques trouvées dans les caves de l'abbaye de Rouquebord. Aussi avait-il repris le train pour Paris. L'étude était composée d'une longue salle divisée en deux par un paravent à moitié replié. La demi-pièce principale constituait une sorte de bureau de consultation. Même genre de mobilier que chez Maître Ruspan. Maître Dandelin était un homme de grande taille, de corpulence assez forte, et il se terminait à son sommet par un crâne totalement chauve et tout luisant. Un gros lorgnon, plus vieux que lui et posé sur le bout du nez, achevait de lui donner un air de clown faisant le cirque buissonnier. « Mes félicitations, maître !» dit M. Gabillon, enfin un peu déridé. « Pour ?» demanda Maître Dandelin avec surprise. « Vous avez perdu près de 20 kilos, mon cher !» Maître Dandelin éclata de rire. « Ne le dites à personne, on se moquerait de moi. Je me suis mis au sport et à la natation, et je suis un régime carabiné depuis près de 6 mois. Tenez bon, vous êtes dans la bonne direction. » Maître Dandelin reprit son sérieux. Présentation, explication, déballage de la Joconde. Cette fois, tout se passa très différemment. L'expert contempla longuement le visage aimable du portrait, et de seconde en seconde, sa pâleur croissait. Des grosses gouttes de sueur se mirent à ruisseler sur son front de cire. Il sortit un mouchoir de sa poche, s'épongea les tempes et remit le mouchoir dans sa cachette. Il toussota 2 ou 3 fois et ne dit mot. Une longue minute passa, 2, puis 3. « Alors ?» fit M. Gabillon sans penser au caractère un peu vulgaire de la question. « Alors ?» répondit lentement Maître Dandelin en employant la même expression. Il retourna le tableau, contempla l'envers, le retourna à nouveau. Raoul perdait patience. Il frappait du pied à petits coups secs qui tombaient dans le silence comme les secondes qui cliquetaient à la vieille pendule. « Non, je regrette. Je suis désolée, je ne peux me prononcer. Je refuse de me prononcer. Je ne suis pas spécialiste de la Renaissance. Je regrette. Adressez-vous à Ruspan. » « Des blagues !» se disait Raoul. « On n'a pas besoin d'être spécialiste pour s'apercevoir qu'il ne s'agit que d'une vulgaire planche à pain !» Cependant, insinua M. Gabillon, « Maître Dandelin !» intervint Isabelle. Il porta son regard sur elle, comme l'implorant, la suppliant. Voulez-vous dire que ce tableau n'est peut-être qu'une copie, qu'il comporte des différences avec l'original ? Je le crains fort, mademoiselle, répondit l'expert, heureux de saisir la perche qu'elle lui tendait. Mais qu'est-ce qui vous donne à penser ? Demanda M. Gabillon, la gorge serrée. Maître Dandelin hésita. On sentait l'état d'esprit effroyable dans lequel il se trouvait, son agitation extraordinaire, ses craintes. Le mouchoir refit surface, reprit sa promenade sur le front et les bas-joues, et retourna dans sa cachette. Le vernis. Le vernis est trop poli pour être honnête. La situation était si tragique que personne ne releva le comique de la remarque. Maître Dandelin encore moins que les autres. Et puis, surtout... Surtout le châssis, ce n'est pas du peuplier, vous comprenez ? Il faut que ce soit du peuplier. Mais c'est du hêtre, vous comprenez ? Évidemment, il comprenait. Qu'est-ce que Ruspan en pense ? Le silence lui répondit. Oui, je comprends. Cette fois, il n'y eut pas de révolte, ni d'abattement. Par politesse, M. Gabillon exprima en quelques phrases sobres les résultats de l'analyse de l'expert de Rouen. Le tableau rentra dans sa gaine, et les visiteurs se retirèrent en silence. Dans la voiture, Raoul, qui s'était contenu jusque-là, explosa.